très important. On va commencer par un point sur la communauté dont on avait parlé la dernière fois. Donc, j'ai enfin eu le temps de créer, de faire une représentation un peu plus avancée et complète de la théologie de Koub. Donc, en gros, on avait parlé la dernière fois. Donc, voilà, en gros, une représentation complète du cosmos qui correspond à au lore de ce stream, dont on a quand même pas mal parlé. Donc, nous avons ici Koub, qui est peut-être dans le chat alors qu'il est, qui a créé la Terre et les cieux, enfin, qui a créé, en fait, toute la création. Lui, il est en dehors de la création, hein, parce que c'est lui qui crée l'actualité. Ensuite, nous avons ici Ivan, seul, qui est au-dessus de Dieu. Et donc, on voit Dieu et Jésus les représenter, c'est très bien fait. Et donc, les rédacteurs-chefs sont ici. Là, on voit Julie, là, on voit Furo, tous les rédacteurs-chefs de Canard PC, qui sont donc en dessous d'Ivan, et ici, le reste du monde. Donc, c'est vraiment la représentation telle qu'on l'avait imaginée. Agbu fait partie du reste du monde. C'est vraiment uniquement la hiérarchie céleste qui est représentée ici. Et donc, l'Ivan, en dessous Dieu, en dessous les rédacteurs-chefs, et au-dessus Koub, qui règne sur le monde. Il manque le temps, et les modos sont partis du monde. Je suis désolé, c'est, même moi, je suis parti du monde. Hein, on est, c'est le film Marion de ce stream, en fait, exactement. Donc, c'est... Alors là, il me dit que Canard PC is no live streaming DCS World. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Mais oui, en fait, il n'a rien mis à jour. Pourquoi il n'a pas changé la catégorie? Ah oh là 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 là. J'ai mis Just Chatting. Il ne m'a pas écouté. Ah là. Oui, Stream Element est... Qui est Koub? Tu le sauras vite, Lolilol, qui est Koub. Merci, assez déçu, pour ta déception, mais surtout pour ton argent. C'est bon ici, c'est à jour, mais c'est le bot qui me dit n'importe quoi. C'est le bot qui dit de la merde, comme d'habitude. Bon, sur ce, on va pouvoir attaquer l'actualité. Alors, on commence. Alors, on va commencer, une fois n'est pas coutume, par du Nutri-Score E. Il va y en avoir pas mal ce soir, je reviens tout de suite. Et je suis désolé de vous le... Ah ben, voilà, je veux dire, mon PC fait vachement de bruit. Je sais pourquoi. C'est que DCS continue à tourner en fond. Donc, mon CPU devait être en train de faire... Koub, c'est un grand ancien. Voilà, Koub, c'est lui. Il vient de faire coucou. Alors attendez, parce que là, mon PC fait n'importe quoi. Voilà, c'est ça. On ne devrait pas streamer des jeux gourmands avant de faire un stream à haute valeur ajoutée. Voilà, c'est parti. On peut travailler. Donc, Nutri-Score E, disais-je. Nutri-Score E, disais-je. Quoi, il n'y a plus de Nutri-Score maintenant? Ah, mais les Nutri-Score sont cassés. Bon, il n'y a plus rien qui marche. Désolé, il n'y a plus de Nutri-Score, il n'y a plus rien. Bon, bah, écoutez, c'est la tristesse. Hein. C'est... on n'a plus de Nutri-Score. Bon, bah, imaginez qu'il y a le symbole Nutri-Score E en bas. C'est un échec complet, ce truc. Attendez, si je fais ça... Ah, bah là, ça marche. Ok, donc, il faut que je fasse dans OBS. C'est mes commandes qui sont pétées dans le Stream Deck. Super. Alors, on paye ce truc 850€ et ça n'a même pas foutu de fonctionner. Bref. Nutri-Score E, disais-je. Mais je l'ai quand même mis en tête parce que c'est l'actu du moment, donc il faut en parler, hein. C'est ça, nous sommes des forçats de l'information. Mike Ibarra, bon, vous l'avez forcément déjà vu, je ne sais même pas pourquoi je vous en parle. Mike Ibarra, donc, c'est l'ancien PDG de Blizzard. C'est maintenant qu'il est attaché de presse chez Microsoft. Il a dit, pardon, vice-président chez Microsoft. Ça serait très bizarre comme trajectoire d'être ex-boss de Blizzard et ensuite attaché de presse. Qui a fait un tweet, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, un exit, hein, bref, qui est, comment dire, qui est un bait, qui est un pur bait. Ça n'a aucun intérêt, je ne sais même pas pourquoi on parle de ça, mais tout le monde est tombé dedans, donc allons-y. Voilà, c'est ce que pense du monsieur, et voilà, Fougnon, parce que eh ben, c'est ce qui s'est passé. Tout le monde, c'est un rage bait, exactement, Fougnon. Et tu es tombé dedans, tu es en train de t'énerver contre ce monsieur, qui, enfin, regardez-le. Dites-moi que c'est pas la tête de quelqu'un qui troll. Bon, ou l'avatar de quelqu'un qui troll. Donc, qu'est-ce que nous explique monsieur Mike Ibarra, qui a un nom bizarre à prononcer, à dire. Donc, il s'est mis au jeu, solo, auquel manifestement il ne jouait pas beaucoup avant. Et donc, des fois, il se dit, oh là là, c'est tellement bien quand j'ai fini un jeu, certains jeux étaient tellement incroyables, que je me dis... J'aimerais pouvoir donner un pourboire de 10 ou 20 euros aux gens qui ont fait ça. Ça vaut beaucoup plus que les 70€ que j'ai claqués. Et davantage. Et puis en plus, il faut les remercier parce qu'ils n'ont pas essayé de me tondre avec des microtransactions sans arrêt. Donc, Ouais, c'est intéressant malgré tout. Au-delà du fait que c'est un. Mais vous n'aviez pas vu Stra? Vous n'avez pas vu ce truc-là? Oui, il essaye de combler le vide laissé par Kotick, c'est un peu ça. C'est que vous n'aviez pas vu, parce que tout le monde n'a parlé que de ça pendant une semaine. Hein. Donc c'est voilà, bon, c'est un bait complet, hein, c'est classique. Vous dites de la merde sur les réseaux sociaux, comme ça tout le monde sent. Ça crée de l'engagement, comme on dit. Puis bon, et le pauvre, il est uniquement vice-président de chez Microsoft, donc du coup, il est forcément, il a pas beaucoup de, il a pas beaucoup d'argent, donc il a besoin de ça pour créer un peu de revenus. Et bah, donc c'est intéressant à un point, c'est ce qu'avait fait remarquer Yvan, mais c'est pour ça qu'il est le patron, il fait des remarques intéressantes parfois. C'est que ça montre à quel point les gens qui sont à la tête de cette industrie sont complètement déconnectés de la réalité. Et oui, ça joue, il y a un côté tipping culture dont on va parler aussi, Fratus, qui est intéressant. Mais déjà, ça montre ce point-là qui est intéressant, propre aux jeux vidéo, enfin à toutes les grosses industries, c'est que les gens qui sont à la tête, qui sont dans les bureaux les plus haut placés, tout en haut des tours, ils sont complètement déconnectés de la réalité vécue de leurs clients. Et ça, c'est fascinant. Déjà, le mec qui est là, c'est incroyable, les expériences. On sent que c'est un type qui avait du jeu vidéo uniquement la connaissance World of Warcraft, Diablo en multi, Overwatch, quoi, parce qu'il est chez Blizzard. Qu'il avait, et là, il a joué à des jeux solo, il s'est dit, ah oh là là, quand même, Baldur's Gate, Elden Ring, c'est vachement bien, c'est une expérience marquante. Et en plus, ils n'ont pas essayé de me demander du pognon, ce qui est. Bon, voilà, surprenant pour quelqu'un qui a l'habitude des games as a service bourrés de microtransactions. Donc, je vais. Donc, c'est comme s'il découvrait presque ce que pouvait être le jeu vidéo, quoi. Pour quelqu'un dont c'est le métier. Ce qui est, en soi, est assez fascinant. Ensuite, oui, il y a un côté dont le métro, c'est un beau lieu de partage. C'est un peu ça, ouais. Merci de Grali pour ton argent. Donc, il y a ce côté vraiment qui est assez fascinant, de voir à quel point ils sont complètement. Déconnectés en fait de la réalité et surtout de la réalité de leurs clients et surtout du produit quelque part qu'ils sont censés créer, c'est assez fascinant. Mais là où c'est rigolo aussi, c'est que sa réflexion, c'est de dire j'aimerais leur lâcher une pièce. Et ça, c'est intéressant à plein de niveaux. Déjà parce que comme disait Fratus, c'est lié à la question des pourboires. Oui, alors Koub, c'est le genre de personne qui ne donne jamais de pourboire au serveur, c'est une autre question. Mais c'est vrai que il y a une culture du pourboire aux États-Unis qui est très importante. Vous savez que si vous allez au restaurant, si vous prenez un taxi, n'importe quoi, vous allez devoir laisser un pourboire, parce que notamment dans la restauration, beaucoup de serveurs travaillent uniquement au pourboire. Donc si vous ne laissez pas de pourboire, ils ne sont pas payés pour ce qu'ils ont fait pour s'occuper de votre repas. Donc il y a une culture du pourboire qui est très importante là-bas. Et qui est un moyen de retirer une partie des charges clairement aux restaurateurs, en les déléguant sur les clients et sur le bon vouloir des clients surtout. Mais et en plus ça a des effets un peu de bord, un peu étranges, c'est que c'est tellement dans l'esprit des Américains qu'on maintenant il y a des aux États-Unis par exemple il y a des caisses électroniques qui proposent qu'on leur donne un pourboire, ce qui est grotesque parce que pourquoi je lâcherais un pourboire à une caisse automatique quoi? Mais il y a des magasins qui proposent ça parce que les gens ont en fait l'habitude de lâcher les pourboires. Et il est évident que beaucoup de gens se disent, ça fait partie, c'est de l'argent qu'on peut essayer, enfin des coûts qu'on peut essayer de déléguer à nos clients en fait. C'est les clients qui vont payer eux-mêmes et non pas le patron qui va payer les salaires d'une partie de ses employés. Donc ça, je trouve ça vraiment très très intéressant. Et notamment dans ce cas-là, parce qu'on sait que lui, il y a une chose qu'on peut être sûr qu'il connaît, même s'il apparemment il connaît pas grand-chose aux jeux vidéo solo, c'est qu'il est au courant de ce que ça coûte le jeu vidéo, et donc c'est probablement quelqu'un, vu qu'il vient de Blizzard, il vient du Game as a Service, qui a beaucoup réfléchi à la question des microtransactions, de la vente d'extensions, etc. Et donc comment rendre un jeu rentable et faire que les gens claquent plusieurs fois le prix d'achat du jeu dans le jeu. Et c'est marrant de voir que sa logique face à un jeu qui est incroyable, c'est de dire, tiens, ben, on pourrait essayer on peut le monétiser comme ça, quoi. Après tout, pourquoi est-ce que dans des jeux qui n'ont pas de microtransactions, au sens classique, pourquoi est-ce que le pourboire pourrait pas être une sorte de microtransaction? Et c'est extrêmement pervers, c'est pervers à plein niveau, hein, déjà, parce que si jamais ce système devait vraiment être mis en place, ce serait, excusez-moi, j'ai ma chaise, qui se déboîte, donc je bouge un peu. Si le système devait être généralisé, vous pouvez être sûr qu'il y aurait des pipelines pour les pourboires, qui fait qu'au final, les développeurs, ils verraient une fraction réduite de l'argent que vous avez donné, l'essentiel irait dans la peau de la boîte elle-même. Donc, ils seraient doublement gagnants dans l'histoire. Et en plus, ce qui est marrant, c'est justement simplement le fait que le pourboire soit pour lui l'idée. C'est pas que c'est américano-centré, c'est une sorte comment dire? De vision très particulière de la valeur du travail créatif. Et je pense que ça, c'est pas uniquement propre, là pour le coup, aux gens en costard, au building. C'est assez généralisé. On voit avec la généralisation des Patreons, des trucs comme ça, que le pourboire ou le don devienne un peu une sorte de logique dans la rétribution des créatifs, des créateurs. Parce que là, en plus, il dit, la façon dont il le dit, c'était une expérience tellement incroyable. Enfin, on sent qu'il est un peu surpris que des jeux puissent avoir une sorte de valeur artistique comme ça, qui n'est pas forcément le cas dans les games as a service qui reposent uniquement sur une boucle de gameplay. Et donc, il dit, voilà, c'est une expérience tellement incroyable que ces gens mériteraient un peu d'argent. Donc, il y a vraiment le rapport de la dame patronesse avec un artiste, quoi. Je trouve ça assez intéressant. Parce que c'est aussi lié au type de contenu qui est proposé. Le fait que quelqu'un qui vient des games as a service dise ces jeux qui ne sont pas des games as a service, mais sont plus des œuvres quelque part, méritent qu'on les approche par le biais du don, je trouve ça assez intéressant. Parce que ça montre une logique dans le rapport qu'on a avec le financement de la création quand elle est vue comme relevant d'une œuvre, sans dire parler de si elle relève de l'art ou pas, c'est une autre question, mais il y a vraiment de ça. Bah, Twitch, c'est ça, typiquement. Mais Twitch, c'est vraiment un truc d'amuseur public, quoi. Twitch est dans cette logique-là. Mais de façon générale, la création fonctionne de plus en plus comme ça. De plus en plus, il y a des médias qui fonctionnent avec... on est en France, on a Origami. Aux États-Unis, par exemple, je crois que Aftermath fonctionne comme ça, qui fonctionne aussi sur la base du don. C'est-à-dire que le contenu est gratuit, mais il est possible de faire un don si on aime bien. Donc le don devient une... Enfin, c'est pas nouveau, le don a toujours existé, hein. Mais c'est-à-dire vraiment intégrer quelque part dans l'esprit des gens qu'il y a un certain type de contenu qui doit être offert gratuitement et que toute forme de rétribution doit passer par le don. Et je trouve ça intéressant. Je trouve ça vachement intéressant parce que ça rappelle aussi un peu ce qu'on avait eu sur l'IA. Vous savez, il y a quelques temps, il y avait des gens qui avaient dit... je ne sais plus qui avait dit ça. Je crois que c'était Sam Altman. Je ne sais plus si c'était Sam Altman ou un autre. Qui avait dit, en gros, pourquoi est-ce qu'on piraterait pas tous les bouquins, en gros, pour entraîner nos modèles de langage? Parce que, de toute façon, la plupart des auteurs, ils gagnent des cacahuètes avec leur travail. Alors franchement, qui gagne des cacahuètes ou qui gagne que dalle, ça change rien. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça montre un certain rapport à la création qui est propre aux gens qui ont une approche plus industrie, on va dire. Pour la presse, le journal pif sur le don et appartient à un milliardaire qui décide de tout. Moi, je préférerais ni l'un ni l'autre, à vrai dire, assez déçu. C'était le modèle qu'on a choisi chez Canard PC. Mais parce que le problème du don, c'est que c'est... Alors, aucun modèle économique, surtout pour toute forme de création indépendante, presse ou autre, n'est très pérenne. Tu dépends toujours de beaucoup de fluctuations auprès de tes clients, etc. Mais néanmoins, le don, c'est extrêmement particulier parce que tu te mets en danger d'une façon très particulière en disant, je vais tout donner gratuitement et je fais le pari que des gens, qu'une fraction suffisante de gens acceptera de me donner de l'argent pour que j'en vive. C'est un modèle économique qui peut marcher, mais c'est très aléatoire. Et l'idée de dire que des gens vivent comme ça ou fonctionnent comme ça, c'est très bien. Il y a des artistes qui vivent bien comme ça, ou en tout cas qui vivent comme ça. Mais l'idée que ça devienne un peu le modèle par défaut, apparemment, dans l'imaginaire de beaucoup de gens pour tout ce qui relève de la création, c'est assez inquiétant. Et j'ai l'impression que c'est un truc qu'on a un petit peu là et qu'on avait un petit peu avec OpenAI, etc. Donc, c'est intéressant. Fiscalement, le don, c'est pas pareil qu'un achat. Le don, alors c'est sauf si tu es une entreprise, enfin une association, loi 1901, ou un quelconque œuvre de bienfaisance qui peut être défiscalisée, pour la personne qui reçoit le don, c'est pareil. Moi, je peux en parler, par exemple, pour tout ce qui est l'insolite, par exemple, l'argent que je touche avec l'insolite, pour les gens qui, merci beaucoup, se sont abonnés, c'est de l'argent que je déclare et que, voilà, je suis obligé, j'ai monté une micro-entreprise pour avoir un cadre légal dans lequel déclarer ça, etc. Vous êtes obligé. Enfin, vous pouvez le faire au black aussi, mais là, vous allez risquer d'avoir des ennuis. Mais légalement, il n'y a pas de différence, en tout cas. Il n'y a pas de différence. Isual aussi a fait la même chose pour Ketamine, par exemple. Il a monté une micro-entreprise pour avoir un cadre légal pour ça. Le don, c'est pas du tout un truc qu'on vous donne de la main à la main. Ça reste un revenu. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant de... Ça, finalement, derrière le troll débile du monsieur, il y a un... Quoique je pense qu'il troll même pas, je pense qu'il est sincère, c'est le pire. Il y a quand même des choses intéressantes. Voilà. Bon, maintenant, on va parler de... Tiens, on va encore parler de gens pas contents. On va passer au Nutri-Score D. Alors, désolé, je fais tout à la main ce soir. Hein, c'est un peu crado. Mon Stream Deck ne veut plus changer les Nutri-Score. Avec Star Wars Outlaws. Alors, je sais pas si vous avez vu ça. Alors, la semaine dernière, on était là à dire ouais, allez, Ubi, remonte la pente, parce que Star Wars Outlaws a été annoncé pour le 30 août, ce qui était plus tôt que ce sur quoi j'aurais parié, et ce sur quoi auraient parié beaucoup de gens, je pense. Merci Saltoir pour ton argent, pour ton don, qui n'est pas défiscalisé. Mais alors là, juste quand Ubi commençait, les gens commençaient à dire oh, tiens, cool, et ben voilà qu'Ubi se tire une nouvelle balle dans le pied. Enfin, un coup de blaster dans le pied, en l'occurrence, donc en annonçant qu'il y aura une partie des missions de Star Wars Outlaws qui seront disponibles au lancement, mais qui ne seront pas accessibles pour les gens qui n'ont pas pris l'édition Gold ou Ultimate qui donne accès au Season Pass. Donc, c'est un... Ah, moi, j'y croyais à fond, Chino, en tant que fan de Star Wars. Moi, je me déguise en Jar Jar Binks régulièrement dans des conventions. Et en plus, j'ai un peu le physique, enfin, le morphotype. Et donc j'étais vraiment très très déçu. Hein. Donc voilà, c'est un ouais, Ubi shoot first, ouais, et dans son pied en effet, Carbars. C'est un peu triste tout ça. Et c'est un. Alors, les gens ont un peu surdramatisé, comme ils le font à leur habitude sur Internet. C'est. Parce qu'il disait, oh là là, parce qu'en gros, ce qui fait râler, c'est pas tant, c'est déjà le fait qu'il y ait des missions qui seront disponibles au lancement, mais qui seront derrière paywall. Ce qui fait râler aussi, c'est qu'il y aura une mission sur Jabba, avec Jabba the Hutt, qui sera derrière paywall, donc pas une mission, du coup, c'est pas un peu une mission obscure, c'est un truc quand même avec un personnage très connu de la franchise, qui est en plus important, vu qu'on joue une contrebandière dans le jeu, donc on peut s'imaginer que les relations avec Jabba sont importantes. Apparemment, j'avais pas suivi ça, mais apparemment. Ubi avait promis qu'on pourrait faire des missions pour Jabba, éventuellement le trahir et tout. Donc c'était un peu. Ça a été mal perçu. Alors apparemment, contrairement à ce que craignaient les gens, c'est pas tout l'arc narratif Jabba the Hutt qui sera derrière un paywall, mais ce sera uniquement une sorte de mission préquelle, en gros, de cet arc-là, qui sera derrière. Si on a bien compris. Mais c'est un. Voilà. C'est quand même. Oui, c'est tout le temps le cas, c'est ça, Benny. Ouais, c'est bien sûr. Mais Ubi, il le faisait déjà avec Assassin's Creed. Hein. Mais là, c'est vrai que les gens ont particulièrement râlé, je pense, parce que, apparemment, donc pareil, j'avais pas trop suivi ça, mais apparemment, il y a eu vraiment de la com sur le fait qu'on pourrait travailler pour Jabba. Donc tous les fans étaient contents, parce que tu dis, ouais, jouer une contrebandière qui travaille pour Jabba, c'est cool pour Star Wars et tout. Et donc, apprendre qu'une partie de ce contenu-là, en particulier, serait derrière paywall, et puis au-delà du scandale habituel de dire pourquoi on doit payer en plus pour du contenu qui est disponible dès le lancement. Ça a fait un peu râler, voilà. Je connais Pizza the Hutt, Courgette. Alors d'ailleurs, c'est un de mes grands drames de ma vie, il faudrait que je le revoie. Beaucoup de gens tiennent Spaceballs, donc la folle histoire de l'espace, de Mel Brooks, pour un des plus grands films comiques de tous les temps. Moi, ça m'a toujours laissé de marbre, mais de marbre. Il y a quelques trucs rigolos, comme la scène où il y a Lord Casque Noir qui regarde la vidéo, et en fait, il regarde le film en temps réel, ça c'est rigolo, il y a quelques trucs comme ça marrants. Mais pour l'essentiel, j'ai toujours trouvé ça beauf et pas très rigolo. Et il faudrait que je le revoie, en fait. Ça se trouve, je suis passé à côté, hein, mais j'ai pas trouvé ça marrant du tout. Oui, on va passer le désert au peigne fin, ouais, qui est marrant. D'ailleurs, ils ont eu du bol que ça marche aussi en français. Ouais, c'est du monde de son époque. Mais oui, ouais, Mel Brooks, c'est un peu le problème. C'est que j'ai toujours l'impression que c'est ou pas drôle, ou alors c'est vraiment méga beauf. Et je sais pas. Oui, t'as réinventé une blague, Courgette. Parce qu'il y a donc dans la folle histoire de l'espace, il y a le personnage qui est un peu une caricature de Jabba. En fait, c'est une caricature de Star Wars, hein, Spaceballs. Et Jabba, c'est Pizza the Hutt, qui est un monstre entièrement fait en pizza. Frankenstein était mieux. Non, les As, c'est bien. Les As, c'est bien. Les As, c'est très drôle, Chino. Les As, c'est bien. Airplane, c'est incroyable. Y a-t-il un flic qui sont très bien. Enfin, les deux premiers, en tout cas. Mais les Mel Brooks, ça m'a toujours laissé de marbre, alors que c'est vu comme un truc vachement quali en général, mais je sais pas. Ah non, j'ai pas connaissance du drama de la communauté Warhammer, Mal d'automne. Ah si, c'est l'histoire qu'il y a une meuf, il y a un garde qui est un personnage de garde du corps qui est devenu une femme, c'est ça? Enfin, devenu une femme, pas au sens transitionné, mais qui a été remplacée par un personnage féminin, c'est ça? Ah, c'est ça, des Space Marines féminins, c'est ça, Mal d'automne. Oui, j'ai vaguement vu passer ça. Sur Twitter, enfin sur un des Twitter, parce qu'il y en a 12 maintenant, mais j'ai pas suivi en détail. Les custodiens peuvent être féminins, d'accord, ok. Oui, c'est très rigolo de voir les gens qui étaient là, oh là là, mon Dieu, un garde du corps féminin. Ces gens-là n'ont jamais connu Kadhafi. Hein. Bref, passons. Où est-ce qu'on en était? Donc, Star Wars, ça c'est bon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, alors ça me fait envie. Et je vais vous demander, là, on va pas vous poser des questions. Il y aura des parties interactives dans ce stream, hein, je vous préviens. Du coup, je passe en Nutri-Score B. Ça, je trouve ça pas mal. Regardez-moi ça. Donc, il y a un jeu qui va sortir qui s'appelle The Crush House, qui est un third-person shooter, plus ou moins, enfin, shooter, entre guillemets. Enfin, shooter, si, en anglais, c'est au double sens du terme. Où on joue un caméraman dans une émission de télé-réalité. Donc, en gros, on est dans une sorte de loft, vraiment qui ressemble au premier loft. Bah, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ça. On regarde ensemble. On regarde ensemble le trailer. Attendez, on ne regarde pas le trailer, parce que le trailer, vous n'avez pas la sortie du son. Je vais vous régler ça tout de suite. Le son n'est pas... le son n'est pas avec moi aujourd'hui. Voilà. TV show this side of the millennium is eating up. A new crop of sassy singles are mingling in the iconic mansion. Ah oui, non, c'est moche. Hein. C'est super chum, mais c'est super deg. Les personnages sont moches, les animations sont pourries, etc. Mais le concept est cool. En fait, je plaisante pas quand je dis ça me fait envie, parce qu'en fait, on est un caméraman qui est jeté dans une sorte de truc de loft, de machin un peu genre les ch'tis à Las Vegas, là. Et on va devoir filmer les gens pour filmer le maximum de drama en fonction du drama que les gens ont envie de voir. Chaque jour, on reçoit en gros une mission. On voit le type de drama que les gens ont envie de voir. Et on va devoir filmer les gens. Et donc, en gros, tout se passe autour de nous en temps réel. Les gens s'engueulent, se tapent dessus, se roulent des pelles. Enfin, vraiment, un pur truc de télé-réalité trash, quoi. Et toi, tu dois filmer ça pour en faire des gros plans, pour maximiser le drama. Et je trouve que le concept est génial. Je trouve que le concept est super rigolo. Et je trouve ça vraiment intéressant. Donc, ouais, t'as pas le droit de parler aux gens. Voilà, c'est très, très marrant. Évidemment, je pense qu'il y aura un twist un peu dark. C'est édité par Devolver, donc ça va forcément partir en couille. Mais voilà, The Crush House, je trouve que l'idée est super. Alors, techniquement, ça a l'air dégueulasse. Mais je trouve que ça ressemble vraiment à un truc Unity 1.0, on a pris des assets au hasard et on les a mis ensemble. Mais je trouve que l'idée est très très bonne. Et je trouve notamment que l'idée est très très bonne parce que la personne qui a fait ça, c'est pas n'importe qui. Alors j'ai oublié son nom. C'est quelqu'un qui a bossé avant, il était dans le groupe de Creative Technology chez Google. Et donc c'était où en gros, je sais pas si c'est un mec ou une femme, parce que des fois il dit Nicole He, donc c'est une femme, parce qu'il met He. Donc il bossait sur, et là il met She, bon c'est incompréhensible, on va dire She dans le doute. Donc c'est, ouais, qui bossait, donc il faisait plein d'expériences, du genre il faisait des œuvres d'art, des trucs comme ça. Ils avaient fait par exemple une sorte de, en gros c'est l'endroit où Google brûlait du pognon dont ils n'avaient pas besoin. Donc, par exemple, ils avaient fait un truc qui... ça, c'est génial comme idée, je trouve. C'était un truc pour Tinder qui swipait automatiquement en analysant tes constantes pour voir si t'étais, tes réactions en voyant la photo de la personne. C'est vraiment des bricolages de trucs très, très art conceptuel et je trouve ça super marrant. Et Nicole Hay, voilà. Et le fait qu'une personne comme ça soit en charge du projet, je trouve ça bien. Parce que le fait de dire... Voilà, en plus, elle explique que c'est un peu la même approche qu'elle a eue, mais d'un point de vue jeu vidéo. Oui, il y a un côté notre podcast aussi là-dedans. Donc je trouve ça vraiment très cool. C'est pas encore sorti, donc j'aimerais bien le tester. J'aimerais bien le tester, je crois qu'il n'est pas encore sorti. Hein. C'est... faudrait que je regarde s'il y a une... Non, de TBC, donc c'est pas annoncé encore. Mais le concept est vraiment très très bien. Et ben je sais pas, Briareos, vu que c'est Devolver, je pense qu'il y aura des... Puis qu'ils insistent bien dans le trailer, surtout ne parlez pas au casting, vous ne devez pas parler, vous devez juste filmer les gens et pas interagir. Je pense qu'il y aura une possibilité d'être le grain de sable qui va péter l'engrenage et de voir faire partir le truc dans des directions inattendues. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment très chouette. Je trouve ça vraiment cool. Enfin, après, il faut avoir la réalisation. Hein, mais l'idée de départ est bonne. Et surtout qu'il n'y a pas trop de jeux qui ont exploité comme ça la télé-réalité. Je trouve ça intéressant. Bah, il y avait eu, comment il s'appelle, c'était Playboy Mansion, qui était une sorte de The Sims un peu trash, mais qui est tout pourri, je crois. C'est vieux, en plus. Je crois qu'ils en avaient parlé dans Canard PC à l'époque de Marboulon. Mais qui apparemment était une merde. Et c'était, en gros, c'était The Sims avec du cul, quoi. Donc, c'était pas le même... une approche aussi critique, on va dire. C'était plutôt de l'exploitation. Donc, ouais, là, ça doit être vraiment très, très rigolo. Et je pense que ça peut être une très bonne idée. Donc, voilà, à noter. C'est pas un des trucs les plus... On va dire... inintéressant que j'ai vu récemment. Alors, mais c'est encore rien à côté du seul Nutri-Score A du soir. J'espère que vous êtes accroché à votre fauteuil. IKEA, vous voyez IKEA, hein, le fabricant de gâteaux, ils vont sortir une gamme de meubles pour gamers. Ah oui, The Devil Inside, c'est vrai. Donc, voilà, j'espère que il faudrait vraiment interpeller Agbou à ce sujet, hein, parce que c'est là, on n'est plus sur son turf. Hein. Mais donc, ouais, il sort toute une gamme de produits. Donc, c'est la gamme Branbol, ce qui n'est pas le pire nom pour une gamme IKEA. Hein. Donc, l'idée, c'est. Donc, ça doit être des choses qui doivent servir, qui doivent, en fait, satisfaire les besoins des gens qui jouent aux jeux vidéo. Donc, dit comme ça, c'est extrêmement étrange. Mais elles doivent aussi être fonctionnelles, enfin être utilisables pour pour le reste de l'activité humaine. Ah non, je trouve ça fascinant. C'est vrai que Branbol, ça pourrait être un bon nom pour Agbou. J'imagine bien Agbou s'appelait Branbol, ouais, c'est vrai. Oui, ça, le nom est plutôt simple. Par contre, je ne vois pas le lien avec le jeu vidéo. Je pensais qu'ils allaient appeler ça gaming avec un tréma, quoi, mais non. Donc, ouais, mais oui, il faut qu'ils fassent un partenariat, sans déconner, Viril Mogul. C'est pour ça, c'est complètement. Complètement à goût corps. Donc si vous voulez, on va regarder les meubles. Alors ça, par exemple, je ne sais pas à quoi ça sert. Là, par exemple, ils l'ont accroché à un porte-manteau. Mais je ne sais pas du tout. Voilà, ça doit être, je pense, un truc qu'on pose par terre. On dirait un coussin à hémorroïdes, mais énorme. Vous savez, les trucs que mettent les... Quand vous avez des hémorroïdes, j'en ai pas eu, mais je connais quelqu'un qui en a eu et qui m'a raconté ça. C'est très, très drôle. Une sorte de truc, en gros, vous posez autour et ça vous fait pas mal. Et je trouve ça génial. Oui, ça, c'est peut-être un énorme coussin hémorroïde. Après, peut-être que les joueurs souffrent d'hémorroïdes. Oui, alors tu vas voir, Ayrton, on dirait... Non, Pierre-Pampan. En fait, si je vous dis, je connais quelqu'un qui, c'est parce que c'est quelqu'un qui est proche de quelqu'un de la rédaction de Canard PC. Et j'ai failli le dire, mais je me suis rattrapé au bon moment. Mais c'est pas quelqu'un de la rédaction, c'est quelqu'un de proche de quelqu'un de la rédaction qui a eu une grande aventure avec les hémorroïdes, mais je ne vais pas en dire plus. Merci Lucy. Donc c'est... ce serait quelqu'un de la rédaction, j'aurais balancé le nom, évidemment. Mais là, comme c'est un proche, je ne peux pas le faire. Donc oui, c'est vrai qu'on dirait que c'est un... ou quelqu'un qui a de très grosses hémorroïdes, c'est vrai, Birout. C'est peut-être que les joueurs ont des hémorroïdes énormes et qu'ils les rangent là-dedans. Et c'est vrai que vous allez voir, c'est un peu une constante, c'est que tout a l'air d'être généré par IA. Il nous a déjà raconté non, mais c'est pas... c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas un écrivain à succès. Non, vous n'y arrivez pas à l'avoir. Non, c'est pas un écrivain à succès, frère du patron. Ah non, attends, un prix Goncourt qui a des hémorroïdes, moi, je balance. C'est un siège gamer, voilà. Donc, peut-être que le petit truc au milieu est censé s'emboîter dedans. Mais dans ce cas-là, je sais pas. Donc, oui, on dirait vraiment que tout est fait par IA. Regardez le pied du porte-manteau. Ça ne va pas du tout. Bref, on va leur accorder le bénéfice du doute et considérer que ce sont des vraies images. Donc voilà, bon, ça, passons. Ensuite, vous avez ça, sans déconner, on dirait pas un meuble gaming, quoi. Alors là, la dame, elle doit jouer à Virtual Tambour, là. Et regardez, ça n'évoque pas du tout. Alors l'avantage, au moins on peut connaître ça à IKEA, c'est là qu'on voit qu'ils ont des designers qui réfléchissent, c'est qu'ils n'ont pas du tout fait un truc qui ressemble à ce qu'on attend d'un meuble gaming, quoi. On dirait quasiment une chaise de jardin, quoi. Ou un fauteuil de jardin. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc, mais apparemment, c'est l'idée que IKEA se fait du fauteuil gaming. Bon. Oui, on dirait un peu un truc de camping aussi, c'est ça. Une préparation. Ouais, c'est bureau. Alors, c'est pour ça que je voudrais vraiment avoir l'avis d'Agbou là-dessus. Parce que, en tout cas, je ne sais pas si c'est infâme bureologiquement, mais c'est une approche radicalement en rupture avec toute la tradition bureologique, quoi. Et je pense qu'un changement de paradigme pareil, ça mérite qu'Agbou en parle. Donc c'est très bizarre. Ça, c'est quoi? Donc là, c'est la même chose sans la dame dessus. Donc, vous voyez, c'est tenu par des lanières. J'ai du mal à imaginer ça confortable pour passer des heures assis devant un PC. Mais bon, c'est très, très curieux. Bon, là, c'est encore le même. Donc regardez, c'est vrai que c'est une approche, voilà, pour du jeu mobile, à ce moment-là, oui, mais n'importe quelle chaise fera l'affaire à ce moment-là, ou n'importe quel fauteuil pour jouer sur une console portable. Bref, donc ça, c'est le premier étape. Il y a cette armoire, qui est extrêmement mystérieuse. Il y a énormément d'éléments mystérieux dans cette armoire. Merci Boscavo pour ton abo et ton argent. Déjà, le look général avec la poignée au milieu, c'est très creepy. Il y a cette espèce de plat qui est posé au-dessus, là. Il y a ces bons hommes qui sont terrifiants. Et il y a des espèces de deux petites roues, là. On dirait qu'il y a une chaise qui s'apprête à nous sauter dessus et qui est cachée dans le placard. C'est très impressionnant. Mais je ne comprends pas voilà, pourquoi il y a cette armoire. Ah si, voilà, maintenant je comprends. Regardez. On ouvre l'armoire et hop, c'est un bureau gaming. C'est un bureau gaming tout entier qui est caché derrière. Et en effet, apparemment, on doit pouvoir ranger la chaise à l'intérieur quand on ne s'en sert pas. Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec ça. C'est oui, c'est vrai, Glavio, n'importe quel meuble est un fauteuil gaming si on joue dessus. Mais non, mais c'est, ouais, alors les gens sont tous en pyjama. C'est, ou avec un plaid, comme si elle était dehors par une nuit d'été alors qu'elle est chez elle, je comprends pas. Et oui, c'est une idée du jeu vidéo, enfin du gaming en général, qui est très... Je pense que c'est vraiment très particulier. C'est l'intersection entre un certain type de jeu vidéo et un certain type de gens qui vont faire leurs courses chez Ikea, et c'est très... alors, le bureau rangé comme ça, ouais, franchement, le concept du bureau gaming, ou du bureau tout court, qui se referme dans une armoire, c'est pas forcément si con. Je dis pas que c'est bien, mais... ah, mais j'ai pas dit que j'avais du goût, Birout. Et j'ai pas dit que ces gens-là n'en avaient pas. Je dis que c'est un... Moi, franchement, j'adorerais avoir un pyjama comme ça. Mais je dis juste que c'est pas l'image qu'on attend d'un truc gaming. Donc, on voit que c'est quand même une clientèle particulière qui cible. Oui, c'est vrai que ça n'a pas l'air très... Alors ça, c'est un autre problème, Vatouane. C'est la première chose que je me suis dit aussi. Ça a l'air d'être tout fait en papier mâché. Ça a l'air pas costaud du tout. Après, c'est sûrement bien fait. Hein. Mais en tout cas, le secrétaire, c'est un secrétaire qu'on referme comme ça, mais orienté gaming, ça pourrait être pas mal, mais pas fait comme ça, quoi. Déjà, là, c'est tout petit. Où est-ce que tu fous ta tour? Ah si, la tour a l'air d'être là, derrière le fauteuil, là. Ouais, c'est un peu... je sais pas. J'essaye d'imaginer ça chez moi et j'y arrive pas. Alors, il y a celui-là aussi, donc qui est plus ou moins le même, sauf qu'ils ont scié les pieds, qu'ils ont mis un coussin par terre. Donc là, c'est pour les fins de soirée sur DS, apparemment, ou sur Switch. C'est vrai que tu peux ranger le gosse avec le fauteuil. Si, si, oui. Si tu continues à jouer à tes jeux vidéo, je t'enferme dans le placard. C'est très, très bizarre. Ça, pareil, alors ça, c'est une sorte d'étagère gaming, donc dans le sens qu'on peut mettre des figurines en bois, en cube qui évoquent des pixels, je suppose. Et il y a une photo, il y a une sculpture de drill, là. Alors, je sais pas ce que c'est que ce truc. Je sais pas ce que c'est que ce machin. Oui, alors si, alors, en termes de coup de genou dans la tour, en effet, ça se pose là, t'as courant. C'est, en plus, ça a pas l'air d'avoir vachement de profondeur, quoi. Donc c'est... ou alors, si ça a beaucoup de profondeur, ça te fait une énorme armoire, c'est merdique. Autant avoir un bureau, quoi, je sais pas. Très très bizarre quoi. Donc il y a ça. Ça je sais même pas ce que c'est. C'est en gros c'est une sorte de dessert de table quoi, mais avec un porte-console et du pop-corn. On a l'impression que c'est un truc qui a été créé pour des usages qui n'existent pas. Qui a déjà dit tiens, t'imagines? Oh, nous allons maintenant. Tu viens de dîner avec des amis. Tu dis bon, nous allons maintenant passer au salon. Les gens s'assoient dans le fauteuil, enfin dans le canapé, tout ça. Et là il y a quelqu'un qui dit. Allez chercher les consoles. Et là, une personne qui arrive avec un petit machin à roulette où il y a toutes les consoles. Enfin, je comprends pas à quel usage c'est destiné en fait. Je comprends pas ce que c'est que ces meubles. Franchement, je suis assez admiratif parce qu'ils auraient pu tout simplement faire une énième gamme de fauteuils gaming Botech Bro, gros bourrin avec des LED et tout. Sauf que ça aurait été brandé Ikea. Et ils ont eu le courage d'aller dans une autre direction. Donc ça, c'est bien. Mais paye la gueule de la direction, quoi. Ça sert à quoi? À quoi est-ce que ça sert? Surtout que t'as pas juste tes consoles portables et tes tablettes et ton popcorn, t'as aussi des consoles full size quoi, et un casque de VR. Donc je sais pas. C'est alors là il y a un tapis gaming. Ça pardon voilà. Énorme erreur. Un tapis gaming qui aurait été bien. Vous savez ce que c'est? Surtout pour la VR. Voilà. Franchement, Ikea m'embauche. En voyant ce truc, j'ai une meilleure idée que la leur. C'est de faire un tapis avec une texture différente autour. Pourquoi? Comme ça, quand tu sens que tu vas arriver au bord du tapis avec ton casque VR, bah, tu le sais. Donc, tu ne rentres pas dans tes meubles. Donc, tu as un truc comme les bandes pour les aveugles, là, où quand tu marches, tu sais que tu touches le bord. C'est, voilà, ça, c'est, oui, comme dans le métro, c'est ça. Et ça, c'est vachement pratique. Là, ça aurait eu une utilité. Mais ça, ça ne sert à rien. Ouais, alors, pas une délimitation, parce que si jamais tu mets un rebord, là, les gens risquent de vraiment se casser la gueule, quoi. Mais juste une texture différente. Et une tapis avec un rembarre, ou une cage, dame, une immense cage dans laquelle on mettrait les gens qui font de la VR. comme une cage de canaris, mais énorme. Donc c'est... Ouais, pour être mieux, une télé collée au mur, ça dessert qu'on sait rien qui traîne. Les fleurs au sol, pourquoi? Je pense que les fleurs n'existent pas vraiment, que c'est une vision d'artiste pour montrer que la dame, elle est dans la réalité augmentée. C'est pour ça qu'il y a des nuages là aussi. Je pense, hein. Après j'essaye de comprendre l'intention de l'artiste qui a fait ça, qui devait déjà être à peu près son cinquième pet quand il a eu l'idée de faire ce machin. Mais ça va pas, regardez, ils sont en train de nous faire un doigt, la main qui est là. Il y a rien qui va, quoi. Il y a rien qui va. Qui pose une main comme ça sur le... Ça n'a aucun sens. C'est super agressif comme décoration. Bref. Alors ça, ça doit être le truc pour porter une petite desserte qui contient les consoles. Ça, c'est ta boîte à bronze-homme, hein. Tout le monde en a une. Ben voilà. Donc c'est le... Je sais pas quoi dire de cette gamme, en fait. Je comprends pas l'intention. Ou c'est des meubles tellement génériques que j'ai envie de dire « Ok, pourquoi pas, mais ils existent déjà. » Ou c'est des trucs dont l'usage est quand même très discutable. Ou c'est un truc qui est complètement dément, quoi. Genre la desserte à console avec le porte-switch, là. Mais c'est... Ouais, bah écoute, vise des gens qui vont faire leur course à Auchan. Je sais même pas si une personne a envie d'acheter ça. C'est... Tu joues beaucoup tes consoles, tu les ranges pas comme ça. Et si tu joues vraiment très occasionnellement, tu mets pas ton popcorn, parce qu'il va être tout sec si tu sors ça une fois tous les deux mois. Donc non, je vois pas d'usage logique de ce truc-là. Oui, il n'y a rien de pertinent, c'est ça, Goddust. Bon, je voulais vous parler de la série Fallout, mais franchement, je ne vais pas le faire, parce que déjà, je ne l'ai pas vu. Tout le monde me dit qu'apparemment, c'est bien. Donc on va, je laisserai ça à Isual, parce que vu que demain, il y a l'émission avec notamment Isual, ça va durer, il va vous parler, je pense, Isual va vous faire un caca nerveux et un AVC en disant « Non, mais c'est pas comme le Fallout pour de vrai !» pendant une heure et demie, donc je vous laisse ça. Parce que maintenant, en plus, comme Scro News est le mardi, je ne veux pas prendre tous les sujets. Donc celui-là, je le laisse à... Il est pour toi, Zuzu, celui-là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Putain, mais il est déjà 38. Putain, mais j'ai trop de sujets, quoi. Mais après, avec des sujets comme ça qui donnent à qui mieux, qu'est-ce que vous voulez faire? Tiens, ça, c'est marrant. Vu qu'il n'y a pas trop de sujets intéressants cette semaine, on va faire des sujets rigolos. Ça, par exemple, c'était pas mal. Il y a une dame, mode Nutri-Score D... comme dame. Une dame qui a acheté 4000 copies d'Alan Wake, le premier. Alors, comment elle a fait? En fait, elle a trouvé sur eBay, je crois, ouais, sur eBay, quelqu'un qui vendait pour $240 deux cartons de petits machins promotionnels avec des clés Xbox pour Alan Wake. Donc, en gros, ça ressemblait à ça. Donc, la dame, elle s'est dit, ah, c'est rigolo. Donc, elle a commandé ça. Et elle s'est retrouvée avec, donc de fait, 4000 copies de Alan Wake. Alors, forcément, les gens ont demandé pourquoi. Et elle a dit, ben, écoute, déjà, ça me fait rire, c'est rigolo. Et puis, en plus, elle est très, très fan d'Alan Wake 2 et d'Alan Wake en général. Et donc, elle voulait faire une sorte de petite vidéo, une fan vidéo. Et elle s'est dit que ce qui pourrait être rigolo, c'est de tapisser un mur entier de cartes Alan Wake, enfin de cartons avec des clés Alan Wake dans une des scènes, ce serait super, super étrange, un peu dans l'esprit du jeu, etc. Donc cool. Mais bon, après 240 balles, bon, c'est quand même de l'argent jeté par la fenêtre, mais pour 4000 copies, ça reste, voilà, c'est bon. Mais là où c'est très rigolo surtout, c'est qu'il n'y a aucune des copies qui marche, parce que comme les clés sont trop vieilles, et elles sont, et ben donc du coup, elles sont périmées quelque part. Donc la pauvre dame, elle se retrouve avec. Déjà, c'est tragique, 4000 copies d'Alan Wake, parce que qui a besoin de 4000 copies d'Alan Wake? Mais surtout, 4000 copies qu'elle ne peut même pas activer. Donc c'est, voilà, c'est une triste histoire, mais en même temps, je trouve ça assez rigolo. Mais alors, là où c'est intéressant, c'est qu'il y a un précédent. Et le précédent, dont, oui, 4000 cartons, c'est des cartons, mais des cartons qui sont des copies, vu qu'il y a la clé dessus. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il y a un précédent, dont parle PC Games Network, qui en parle. Quelqu'un avait fait ça à propos de Brink. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de Brink, mais moi, ça m'a particulièrement touché, cette histoire, parce que Brink, c'était un jeu de splash damage, peut-être le dernier jeu de splash damage qui a à peu près marché. Après, ils ont fait four sur four. C'était un très bon FPS multi. Je n'en démordrai pas. Splash damage, c'est les mecs qui avaient fait les Enemy Territory, Quake Wars, et puis Quake. Wolfenstein, et puis Quake. Non, ça n'a pas vraiment marché. Ça n'a pas marché. Mais les jeux d'après n'ont pas marché du tout. Donc, voilà. Et donc, comme Brink, ça n'avait pas bien marché, il y a quand même eu un petit groupe de gens, dont je fais partie, qui pensaient, à l'époque, que c'était un très bon jeu et il a été injustement déserté par le monde. Et cette personne-là, elle a acheté des tonnes et des tonnes de copies. Elle en a acheté combien ? Elle en a acheté... elle achète des tonnes et des tonnes de copies. Elle continue d'en acheter jusqu'à ce que les gens... Jusqu'à ce que les gens... que Splash Damage, en l'occurrence, ou l'éditeur, je ne sais même plus qui c'était, c'était Bethesda, accepte d'en sortir une suite. De sortir une suite à Brinks. Et je trouve ça vraiment génial de dire qu'une personne va... achète à elle toute seule des copies d'un jeu en disant si on achète assez, l'éditeur va se dire c'est rentable de faire une suite. Alors, c'est une personne folle, on est d'accord, Blackmagic, mais je trouve ce qui est rigolo, c'est que c'est un peu un anti-boycott. C'est-à-dire que le principe d'un boycott, c'est que vous dites arrêtez d'acheter un produit dans l'espoir d'influencer l'éditeur en mal, ou enfin le producteur en mal, dire voilà, je ne veux pas que ton produit se vende, donc je dis à chaque personne de ne pas en acheter un exemplaire. Mais à beaucoup de gens. Là, c'est à moi tout seul, je vais acheter beaucoup d'exemplaires pour faire remonter la courbe, etc. Ce qui, bien sûr, est complètement... je pense que de tout ce qu'il y a... Déjà, les boycotts, ça marche très, très rarement. Mais là, ça marche encore moins. C'est vraiment très, très bas dans l'échelle des trucs qui marchent. Mais voilà, je trouve ça quand même très, très rigolo de voir qu'une personne est à ce point-là déglinguée et obsédée par Brink pour continuer à acheter toutes les copies qu'elle trouve dans l'espoir de... que l'éditeur se dise « Mais en fait... on continue à en vendre, c'est que c'est un jeu qui mérite une suite parce qu'il est rentable. » Je trouve ça assez rigolo. Et c'est marrant parce que c'est surtout une intention complètement différente de celle de la dame qui a l'air folle, mais quand même moins folle que le monsieur qui fait ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Il y a tellement... Qu'est-ce qu'on a de trucs rigolos ? Ah si, on a ça. Je le poste, ça, je ne sais pas, on va peut-être pas trop s'étendre dessus. Même si c'est un peu du Nutri-Score de qualité, quand même, on va mettre du B. Il y a Jason Schreier, qu'on ne présente plus, qui a... Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà le subreddit Gaming Leaks and Rumors. C'est un subreddit... Alors, il existe un point du bon journalisme, du journalisme de qualité, vraiment très, très, très rigoureux, etc. Ce subreddit est aux antipodes. En gros, le principe de ce subreddit, c'est que du Nutri-Score F. Dès qu'il y a une vague rumeur sur un jeu vidéo ou un développeur ou un éditeur ou n'importe quoi, les gens, c'est presque un jeu, comme tous les subreddits de rumeurs d'ailleurs, les gens, ils balancent le truc et ils se mettent à en parler en boucle, à monter le truc en sauce, etc. Et donc, Jason Schreier, qui est vraiment décidé à faire du monde un endroit meilleur, comme tous les joueurs de Bloomberg, eh bien, il a décidé qu'il allait leur faire un petit guide du bon journalisme. Et je trouve ça très, très, très rigolo. Il a fait un petit guide sur comment traiter une source de seconde main, comment traiter une source de première main quand on n'en a qu'une, ce qui pose aussi beaucoup de problèmes, on a tendance à moins se méfier parce que c'est une source de première main, etc. C'est un très bon guide. Alors bon, évidemment, on sait tous maintenant ici que le problème du journalisme a été résolu depuis longtemps, la solution c'est le Nutri-Score. Mais pour les gens qui n'utilisent pas Nutri-Score, qui n'ont pas encore ce niveau de maîtrise, c'est une approche assez intéressante de problèmes qui se posent dans le fait de... Mais même qu'on se pose les questions qu'on peut se poser nous, hein, même si on ne fait pas trop de la news chez Canard PC, savoir quand est-ce qu'on peut considérer qu'une information est fiable. Et d'ailleurs, là, c'est à propos du jeu vidéo, mais grosso modo, c'est les mêmes principes de sourçage pour le journalisme en général. Donc, je trouve ça très rigolo. Et le fait qu'il aille faire ça sur ce subreddit en particulier, qui est un subreddit de rumeurs et de ragots, je trouve ça très rigolo. Donc, je vous le poste ici si vous voulez le lire. C'est assez bien fait, bon ça apprend pas, c'est une sorte de base de comment savoir si on peut faire confiance à une source et surtout comment traiter les sources en fonction de ce qu'on a comme information, notamment le point qui est assez assez intéressant. Il n'en parle pas trop d'ailleurs sur les sources primaires, c'est un seul point qu'il n'aborde pas, tout est pas mal fait. Il y a un point dont il ne parle pas, c'est la question des sources primaires, des primaires principales, qui parfois peut aussi poser des problèmes, notamment quand plusieurs sources primaires se sont contaminées, et au final on pense qu'il y en a plusieurs, mais il n'y en a qu'une seule. C'est un point qui peut se poser parfois. Et là il dit non, c'est quand même le golden standard, c'est pas forcément toujours le cas. Donc toujours dans... Tiens, on va continuer avec les questions de médias, avec... Alors ça c'est... Je crois que j'ai trouvé ça chez Koub, comme tout. Il y a un vieux reportage de la BBC qui est ressorti, qui date de 1983, sur les gens qui étaient accros à l'ordinateur à l'époque. Et donc, c'est assez marrant parce que les choses ont finalement pas trop changé, pas tant dans le traitement journalistique, mais que la façon dont il... oui, Koub est ma source unique pour tout. Hein. Moi, Koub me dit un truc, je le crois. De toute façon, si Koub dit un truc et que la réalité le contredit, c'est la réalité qui a tort, c'est pas Koub. Ça, tout le monde le sait. Parce que vraiment, c'est le discours sur les... en général, sur les jeux vidéo, sur les pratiques des gens, et un peu rester le même. Alors évidemment, il y a des choses maintenant qui paraissent un peu vieillies, parce que les choses sont beaucoup plus banales. Par exemple, là, il y a un moment, on s'est dit, oh là là, c'est un homme très respecté qui travaille dans un bureau, mais à midi, il va faire une pause pour aller sauver une princesse sur un jeu vidéo. C'est assez rigolo. Mais donc on voit que c'était quelque chose d'un peu nouveau à l'époque. Mais dans l'ensemble, il y a pas mal de choses qui n'ont pas changé, notamment sur la question du temps passé devant les ordinateurs. Et ce qui est marrant, c'est déjà à l'époque, il y avait des types qui racontaient qu'ils passaient 40 heures par semaine devant un PC, enfin devant un ordinateur, et ce qui était quand même, mine de rien, beaucoup pour l'époque. Ce qui était... Oui, ça fait un peu message à caractère informatif, oui, Chino. Mais donc le reportage est assez intéressant. Je vous le poste ici, vous pourrez le regarder. Vous verrez, il est pas mal. C'est assez rigolo. Sur les écrans de merde, oui, et en plus, c'est assez marrant. Alors, ce qui est rigolo, il y a le truc le plus mignon dans ce reportage, c'est à la fin, il y a une petite dame qui travaille dans un bureau de tabac, machin, là. Donc, elle explique, voilà, elle a acheté un ordinateur, machin. Non, pas un bureau de tabac, si, c'est une sorte de confiserie, machin, truc où ils vendent, enfin, une épicerie, quoi. Et elle raconte, que sa compta va beaucoup plus vite depuis qu'elle a acheté l'ordinateur, mais que, donc c'est le ton du reportage, nous raconte que, en fait, évidemment, au début, elle faisait ça que pour la compta, et puis elle est devenue accro. Alors moi, j'étais là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue à des jeux vidéo, quoi, où elle bricole des petits programmes. Pas du tout. Elle fabrique des composants externes pour son PC. Donc là, elle explique qu'elle a acheté des condensateurs. Elle est en train de les souder. Elle veut voir si elle peut connecter ça sur un des ports du PC pour faire une extension, etc. Donc, je trouve ça génial en termes de escalade quickly, quoi. C'est la dame qui dit « Oh, je me suis acheté un petit PC pour faire ma compta. » En plus, elle est déjà pas très jeune, c'est un jeu pour me faire ma compta. Et puis après, avec son fer à souder, elle est passée du niveau 0 au niveau 100 de la geekerie en l'espace de... Voilà, c'est devenu furolite en l'espace de 2 jours, quoi. Et je trouve ça très, très rigolo. Elle est trop choupie. Et donc, voilà, elle fabrique ses extensions pour son PC. Donc, regardez le reportage, il est très rigolo. Et rien que pour ça, elle est incroyable. C'est la grand-mère parfaite. Bon, qu'est-ce qu'on avait d'autre, sinon? On a encore des leaks sur War Thunder, mais est-ce que ça vaut encore la peine d'en parler? Des leaks du Su-57 qui avait déjà été leaké il y a un an et ça a été reliqué là. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah oui, ça c'est pas mal. Enfin, on va en parler parce que c'est mignon. On parle beaucoup des gens qui trafiquent Doom pour le faire tourner sur une nouvelle plateforme. Hein. C'est devenu une blague qui est un peu old maintenant, tellement elle a été faite. Et bien, il y a un monsieur qui a eu une très bonne idée. Il s'est dit plutôt que de faire tourner Doom sur de nouvelles machines, on devrait essayer d'ajouter des nouvelles choses dans Doom. Et lui, par exemple, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ajouté des microtransactions dans Doom. Donc, il a modifié Doom pour que, à chaque fois que tu ramasses un objet, le jeu s'arrête. Oui, c'est le point boomer shooter de fin d'émission, hein, Raphaël. Et voilà, là, il va ramasser un objet, vous allez voir, et ça va lui demander, hop, voilà, il doit scanner un QR code et faire une microtransaction pour pouvoir ramasser son objet. Je trouve ça absolument génial. Donc, il fait ça pour une jam de développement qui s'appelle Stupid Shit Nobody Needs. Et c'est un hackathon. C'est un hackathon sur des idées à la con. Et je trouve que... il a gagné pour le concours, c'est ça. Mais c'est très, très, très drôle. Est-ce que j'ai regardé la vidéo de Fellup sur Doom? Non, je ne l'ai pas regardé. C'est vraiment très, très, très drôle. C'est vrai qu'il aurait pu mettre de la blockchain et de l'AI, etc. aussi, donc ça aurait été pas mal. Bon, bah écoutez, il est 51, nous sommes donc pile à l'heure. Je n'aurais pas parlé d'un truc que je voulais parler sur l'IA, justement, mais on en parlera la prochaine fois. On va passer à la rubrique Canard PC, avec l'article gratuit de la semaine, qui est, on en parlait, un article Bureaulogie. Admin Doom, non, je ne connais pas. Donc, c'est un article de Bureaulogie d'Agbou, le dernier. Sur... Oui, ça pourrait faire tout à fait un thème du Make Something Horrible, ouais, carrément. Sur pourquoi est-ce qu'il faut passer au blanc. Voilà. Bon, et ben, vous me direz, on était là à se moquer d'IKEA. Mais regardez, Agbou nous dit, ça, c'est old school, il ne faut plus faire. Aujourd'hui, il faut faire ça. Eh bien, on se rapproche un peu de ce que fait IKEA. Peut-être que c'est simplement des visionnaires. Regardez, tant la chaise que le bureau, que le clavier, que... On sait, IKEA, ça se trouve, ils ont un coup d'avance sur ce que va être la tendance gaming, qui est en train d'arrêter le côté tech bro tout noir pour aller vers ce côté-là. C'est... ouais. C'est, oui, ça, c'est, ah, c'est IKEA. Ah oui, c'est vrai, ça fait IKEA, ouais. Mais en effet, c'est un bureau IKEA, ça. Mais en tout cas, bah justement, il dit le bureau gamer conçu par IKEA, sombre et démodé, c'est étonnant pour un fabricant qui a fait entrer le blanc et la lumière dans nos salons. Et ben, justement, qu'est-ce qu'est en train de faire IKEA? Et d'ailleurs, Agbou dit il faut commencer maintenant à mettre un peu de rose et de LED un peu girly dans nos bureaux. Et ben, c'est un peu ce qu'est en train de faire IKEA. Je crois qu'IKEA est à la... En fait, il y a eu les 4 girls, d'abord, qui ont vraiment trouvé la tendance, les streameuses 4 girls. Ensuite, ça a été IKEA. Maintenant, Agbou. On a vraiment une direction, je pense, on voit ce qu'est l'avenir de la bureaulogie. Et bien, si vous voulez donc avoir un aperçu de ça, en plus d'IKEA... Tiens, je vous poste l'article d'Agbou, vous pouvez lire gratuitement cette semaine. Et je vous poste un... ah non, mais... Agbou, franchement, Agbou en catboy, ce serait parfait. Mais il y a sûrement des gens qui dessinent Agbou en catboy. Et il y a sûrement sur notre Discord une personne, au moins une, qui a fait des dessins d'Agbou en catboy et qui est là... Est-ce que je les poste ou est-ce que je les poste pas? J'ose pas trop, j'ai peur de me faire ban et tout. Et un jour, cette personne les postera. Obligé. Tiens, je vais vous poster aussi le truc d'IKEA. Tiens, comme ça, vous pourrez regarder, vous pourrez comparer. Hop, voilà. Le futur est scandinave. Il est plus que scandinave. Il est vraiment très... très kawaii, en fait. Ce genre de kawaii, là, très particulier. Bon, donc voilà, l'article gratuit de la semaine, si vous voulez comparer les tendances d'IKEA et les tendances d'Agbou. Quoi d'autre qu'on a? Ah oui, on a ça. Alors, ça, c'est important. On a toujours notre album anniversaire des 20 ans de Canard PC, je vous poste le lien, qui marche très bien. Merci à tous et à toutes pour votre soutien. Et essayez, là, franchement, un petit effort. Je vous demande juste un petit effort. Surtout que je ne vais pas dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont lâché les subs pendant ce scroll. Ça veut dire que vous avez un peu d'argent de côté. Parce qu'il n'a pas été dépensé là, dépensez-le dans cet album anniversaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous explique, on est à 358%, là, ce qui est très bien, hein, mais si on atteint le stretch goal, le but étiré, comme on dit en France, de 375%, eh ben, on organise une émission spéciale avec un quiz géant sur l'histoire du Canard PC. Et vraiment, ce stretch goal, j'ai envie qu'il soit réalisé. Parce que ça va être... Mais t'en achètes un deuxième et tu l'offres, Black Valk. Il y a des problèmes qui ont des solutions simples. Ensemble, étirons le but. Exactement, Birout. Ça va très mal avec ton pseudo, cette phrase, d'ailleurs. Mais voilà, si on... parce que j'aimerais vraiment qu'on fasse cette émission. Ça serait tellement... ça serait tellement, tellement rigolo d'avoir une d'avoir cette émission. Puis ce quiz va être fait par Sonia, qui va nous poser des questions super dures, donc on ne pourra pas répondre. Et vous allez pouvoir répondre, parce qu'il faut le dire, pas tous nos lecteurs, seulement certains, par exemple ceux qui dessinent Agbou avec des oreilles de catboy, mais on a quelques lecteurs qui sont quand même assez creepy. Parce que parfois on rencontre des lecteurs, et on a des lecteurs qui nous disent « Ah ouais, tu te rappelles ce papier que t'as écrit en 2013, t'avais dit que gna. » Et évidemment, moi, je ne m'en souviens pas parce que je me souviens absolument. Pour moi, mon existence a commencé il y a 15 jours. Tout ce qui est. C'est comme. Je fonctionne en fait sur une sorte. C'est comme les. Vous savez, les bandes des caméras de sécurité. Au bout de 15 jours, c'est effacé pour faire. Et ça tourne en boucle, en fait. Donc, je ne me souviens à rien de ce qui s'est passé il y a plus de 15 jours. Et là, des gens vous disent. Se rendent compte qu'ils connaissent par cœur ce que vous avez fait il y a 10 ans. Vous êtes là. Waouh! Et c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Donc, ils font gna 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 aussi, les lecteurs, bien sûr. Donc, je suis toujours impressionné par ça. Donc. C'est pour ça que vous allez réussir à répondre aux questions. Enfin, pas vous, parce que vous êtes des gens bien dans le chat. Mais nos lecteurs creepy vont réussir à répondre aux questions. Alors que nous, on va galérer comme des chiens et ça va faire une émission très, très drôle. Ça va faire une émission très, très drôle. Donc, je vous encourage à faire un tout petit effort pour avoir le stretch goal. Après, vous pouvez arrêter. Après, vous pouvez arrêter, mais au moins qu'on atteigne ce stretch goal-là, ce serait bien parce que celui-là, il va être cool. Ça me ferait chier qu'on fasse passer l'émission. Pour le reste, le pavé numérique, hein, qui arrive demain dans vos boîtes aux lettres. Hop là, je vous passe le lien, vous êtes déjà tous abonnés. Là, vous n'avez pas d'excuse, c'est gratuit. Hein. Alors, si vous n'êtes pas abonné, à part évidemment si vous n'avez pas de boîte mail, ça je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas de boîte mail, à ce moment-là, éventuellement, vous pouvez peut-être vous le faire envoyer dans une boîte postale. Je sais qu'il y a des assos qui donnent des boîtes postales à des gens qui n'ont pas d'adresse, par exemple. Essayez peut-être de les contacter. Mais si vous avez une boîte mail, vous n'avez pas d'excuse, vous devez vous abonner. La newsletter de Koub, là, pareil, c'est gratuit. Donc, si c'est gratuit, vous vous abonnez. On ne pose pas de questions, on s'abonne. Non, parce que si on commence à renacler quand c'est gratuit, alors qu'est-ce que ça va être quand ça va être payant? Alors, et enfin, le planning du stream, qui sont également... Agbou était fan d'Alizé il y a 20 ans. Ça, c'est marrant, on a eu une conversation à la rédac à ce sujet il y a 3-4 jours. Et c'était assez inquiétant. Pas avec Agbou, hein. Agbou n'était pas là. Mais on s'est dit, d'un coup, ce mec était fan d'Alizé. Parce que ça aussi, c'est creepy d'être fan d'Alizé. Hein. J'ai du mal à concevoir dans quelles conditions un homme majeur peut être fan d'Alizé sans que ce soit creepy. Je n'arrive pas à concevoir. Je veux dire, je n'arrive pas à concevoir une configuration dans laquelle c'est possible. Mais peut-être que je manque d'imagination. C'est pas sa faute à lui, exactement. Donc, c'est... Ensuite, c'est le planning des streams. Voilà, alors. Donc, je fais le stream de toute la semaine. Donc, tout à l'heure, à 14h, vous avez peut-être raté Denis. Auquel cas, c'est pas gentil. Il faut regarder Denis. Ça va, elle a 36 ans. La question, c'est pas quel âge elle a maintenant, Kind of Magic. C'est l'âge qu'elle avait à l'époque. Lemmings, oui, Lemmings jeudi. Jeudi, je vais vous faire donc l'EHPAD directionnel où je vous vois Lemmings parce que c'est un jeu qui a été pas mal oublié et qui était absolument génial. Et on va parler pourquoi, en termes de game design, c'était vraiment, vraiment, vraiment foufou. Il faudra vraiment. Ça vaut vraiment le coup d'en parler. Puis c'est un jeu dont on parle pas du tout. Alors, quand on parle de vieux jeux, on parle que de jeux de rôle et de FPS. Et ben, Lemmings, c'est bien aussi d'en parler. Il faut aborder d'autres aspects du vieux gaming. Et vendredi, vous aurez le traditionnel show des frères Tapdur, François et Denis, qui vont tenir l'antenne et le crachoir en faisant des blagues, parce que Yvan est encore en vacances dans sa propriété gigantesque de Gstaad, où il fait des... En fait, en plus, il se fait chier. Vous savez ce qu'il fait pendant son temps libre? Et dans sa propriété, là, il fait des allers-retours dans sa piscine géante en yacht. Alors, ça lui prend un peu de temps, parce que la piscine est tellement grande que le yacht met 2 jours à aller d'un bout à l'autre. Mais je trouve ça un peu grotesque. En plus, quel est l'intérêt de chlorer la piscine? Parce que vous imaginez la quantité de chlore qu'il faut pour une piscine de cette taille, si c'est pour y aller en bateau, quoi. Ça ne sert à rien. Mais bon, en tout cas, le bilan carbone. Le bilan carbone, n'en parlons pas. C'est absolument catastrophique. En plus, il y a une centrale à charbon qui est chargée, la désalinisation de l'eau de mer qu'il pompe. Et en plus, il ne veut pas n'importe quelle eau de mer. Pas d'eau de mer qu'il prend sur les côtes. Il va pomper de l'eau de mer dans les fonds marins. Là, et donc, du coup, ça tue plein d'espèces très rares pendant que c'est aspiré par le tuyau. Rien que l'installation du tuyau, ça a été un bordel, je ne vous raconte pas. Environnementalement, il a dû détruire des barrières de corail pour le faire passer, enfin, une horreur. Ça pompe de l'eau de mer, et il y a une usine de désalinisation qui va traiter ça pour mettre dans la piscine, et c'est un truc à charbon, donc ça dégage une fumée monstrueuse. Évidemment, c'est pas à côté de chez lui, c'est dans la ville d'à côté où il y a les pauvres. Une histoire horrible. Il brûle des pneus, oui. Il fait ça avec des pneus, exactement. Bon, sur ce, je vous laisse. Est-ce qu'on peut raider quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un à raider? Je vous fais confiance maintenant, parce que mon truc de raid est toujours tout pété, je comprends plus rien. Donc, Lupus Stream, allez, Lupus... Ah, ou Daz, Lupus, on va déjà raider, on va raider Daz, ça va être marrant. Allez, on va raider Daz. Vous lui donnerez mes conseils d'atterrissage de tout à l'heure. En fait, c'est facile de poser un avion. Allez, c'est parti. On va raider. C'est Daz, JDM, c'est ça? Je ne me souviens jamais de son truc. C'est un bordel, cette affaire. C'était plus simple, l'informatique, à l'époque de la dame qui faisait des composants. Là. Daz, JDM, ouais, c'est ça. Allez, hop, raid Daz, JDM. Et sur ce, je vous laisse en bonne compagnie. Soyez gentils avec lui, quand même. Il est landing impaired, comme on dit en anglais. C'est pas très gentil de lui faire remarquer. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. À bientôt. Salut.